L'une de mes toutes premières interviews, bien avant la création de Volant, date de 2011. J'étais à San Francisco et j'avais eu la chance de croiser la route d'un des fondateurs de Airbnb. Si vous cherchez sur un moteur de recherche, vous verrez que je n'étais pas très doué à l'époque d'ailleurs. Mais j'étais impressionné et ravi car j'ai toujours trouvé la capacité de Airbnb à créer une communauté de partage vraiment incroyable. Et donc depuis, l'appartement dont je suis propriétaire a toujours été sur Airbnb pour les moments où je suis en vacances ou simplement absent, car cela me permet d'arrondir les fins de mois. Avec ce supplément de revenus, je peux partir en voyage au Japon en 2016 par exemple, sans doute l'un de mes plus beaux voyages. Donc si vous avez une chambre de libre ou si vous partez en week-end, vous avez sans doute vous aussi un Airbnb. Pour découvrir combien pourrait vous rapporter votre logement, rendez-vous sur airbnb.fr/hôte. C'est airbnb.fr/hôte. H-O-T-E. Allez, place à l'épisode maintenant.
Allez, Volant, c'est parti. Bonjour, je suis Grégory Pouy et je vous présente Volant. Volant, ce sont des partages d'expériences concrets, sans bullshit, pour mieux comprendre comment le marketing a évolué. Bienvenue sur Volant et n'hésitez pas à vous abonner.
Bonjour à tous, je suis avec Eric Brion, Dark Planner. Eric, je le connais depuis...
Trop longtemps.
Depuis 12 ans, je pense. Depuis que j'ai créé mon blog, ouais. En fait, je pense qu'on s'est rencontré comme ça. Et Eric, alors, il a fait plein de choses. Il est planeur stratégique chez Publicis dans le luxe. Il a écrit 4 bouquins,
je me trompe.
3 bouquins. Un sur le buzz.
Beaucoup trop tôt.
Hyper tôt.
En 2002. Donc c'est à l'époque, on pouvait écrire des bouquins trop tôt.
C'est
en marketing, ce qui est totalement impossible.
Et ensuite, 2 bouquins sur le luxe.
Voilà.
La Gen Y, donc plutôt Gen X et Gen Y, pardon.
Complètement Y, parce que les Z n'existaient pas encore à l'époque.
Plutôt Y, voire Millennials et le luxe. Et puis ensuite.
Luxe et digital.
Luxe et digital.
Des petits sujets très simples
voilà,
qui n'embêtent pas le monde du luxe.
Et en fait. Bien sûr que à l'ère digitale, il y a énormément de choses qui bougent, mais entre autres, le luxe, ça se transforme complètement. Il y a un rapport à ce qu'est le luxe aujourd'hui qui a beaucoup bougé. Il y a un rapport des jeunes, en particulier les plus jeunes, donc Gen Z, génération Z, au luxe qui a vachement bougé. La question que j'ai pour toi et qui est large, mais après on va en discuter, c'est quoi le luxe en 2017 ?
Alors bonjour Greg d'abord, et puis. Comme je vais pas être comme si tu étais un journaliste, je vais vraiment répondre à ta question.
Ah,
je
ça,
répondrai pas à la question quand même la mécanique. Alors c'est vrai que c'est facile de dire le luxe c'est l'expérience, le luxe voilà, enfin c'est ça devient totalement bullshit, mais je voudrais juste partager justement une expérience. Je reviens de Naples.
Voilà.
C'est plus fort que moi. Je reviens de Naples où j'ai eu la chance de visiter, de m'immerger dans une vraie marque, une vraie maison de luxe qui est la maison Keaton. La maison Keaton, faut savoir c'est on va dire les costumes les plus chers du monde, des costumes facilement à 20 000, 30 000, 40 000, 50 000 euros. Alors comme ça, on se dit, oh là là, on est dans une logique un peu bling, et en fait, quand on rentre dedans, c'est pas du tout. Et donc j'ai plongé dans des ateliers gigantesques où il n'y avait pas de machines, où très très peu de machines, tout est fait main, où il y a ce rapport au temps incroyable, où on comprend quelque chose qui a un peu disparu dans notre monde, où tout est jetable, qui est la qualité. Alors j'ai envie de dire que cette expérience, alors ça passait de l'atelier à quelque chose qui m'a complètement fasciné, qui est la cantine, en fait. C'est-à-dire que donc c'est une famille, les employés, en tout cas le high management, ils mangent tous sur une table, le président est au centre, il rit, il raconte sa vie, les plats qui étaient servis, et c'est une cantine, étaient juste extraordinaires. Ouais. Hyper simple, c'était de la mozzarella avec du jambon et des pâtes cuits merveilleusement, c'était anti-bling, et c'était la qualité. Donc quelque part, ce rapport du fait main et cette qualité complètement obsessionnelle, et j'ai envie de dire le luxe, c'est un petit peu la signature de Keaton, c'est best of the best plus one. Best of the best, donc c'est extraordinaire, best of the best, voilà, c'est l'ultra qualité, mais le plus one, bah c'est quoi? C'est le supplément d'âme, c'est la culture, c'est la logique. Donc quel secteur extraordinaire, quoi.
Mais alors du coup, c'est marrant que tu dises ça, parce que quelque part, il y a des marques qui font de la qualité, et je pense en particulier à Chanel. C'est vrai qu'il y a, à noter quand même qu'il y a, je pense, beaucoup de marques qui ont réduit la qualité. Là, pour le coup, je pense à Ralph Lauren, je pense à Calvin Klein, qui n'étaient pas dans le luxe, mais qui avaient quand même une image un peu, on va dire, supérieurs et qui ont...
Mais le style a pris le pas sur la qualité.
Détruit la marque.
Ben, je pense que le style a pris le pas sur la qualité.
Ouais.
Vraiment, enfin, on est dans une obsession de style. Instagram ne fait pas passer cette notion de qualité. On le sait, et on est bien placé à quel point nos marques de luxe, beauté, sont complètement devenues dépendantes d'Instagram, que finalement, on est face à une disparition du mot pour un triomphe de l'image. Et faire passer cette qualité tout en étant sexy dans ce monde est difficile. Mais retrouver cette qualité, c'est quelque chose qui est vraiment, je pense, vraiment fondamental.
D'accord. Mais alors du coup, enfin, est-ce que tu penses...
Rééduquer que... sur la qualité. Je pense qu'il y a une notion d'éducation. Et c'est amusant. Sur un autre exemple, puisque là, je suis, bon, voilà, on va dire, dans le masculin, okay, dans, ouais, dans le costume. Là, c'est intéressant, comme le costume était devenu ringard, et aujourd'hui, le costume reprend une nouvelle jeunesse.
Ouais,
on a vu McGregor avec ce match sur Mayweather. Aujourd'hui, il a relancé vraiment le costume, et que le fameux costume où il y a écrit « Fuck you » est devenu un best-seller là. Et voilà, est-ce qu'il y a de la qualité, c'est à voir, mais voilà. Bon. Mais alors, et je reviens juste sur la qualité, sur ces marques de costumes. Ce qui est incroyable, c'est que ce que je vois, c'est que les jeunes maisons qui sont sur des prix à 400, 500 euros, françaises, ont vraiment ce discours, finalement, le style c'est important, mais revenons à la qualité, avec vraiment une posture totalement engagée, complètement transparente sur cette qualité perdue et qui doit être retrouvée.
Alors du coup, toi tu tranches du côté des Français, quand il y a eu ce débat, je pense que c'était il y a un an sur Instagram justement, entre Burberry et les maisons américaines, je pense en particulier... à Diane von Schoenberg, qui disait en fait on va faire de l'instant sale, c'est-à-dire qu'à partir du moment où les gens voient le défilé, ils peuvent tout de suite acheter, et de toute façon on peut pas éviter ça, parce qu'aujourd'hui quand les gens voient la chose sur Instagram, ils le veulent, c'est un désir tout de suite, et ils vont pas attendre 6 mois pour l'avoir, tandis que les maisons françaises étaient plus dans une discussion de oui mais justement on est dans la qualité, on est dans le temps, il faut attendre, etc. Qui sont passés pour des passéistes. Donc toi, t'es plus dans cette
mouvement. Je pense qu'il y a un juste milieu. Oui, parce que quelque part, le see now, buy now, on y revient un petit peu, hein, parce que ça a été un superbe élément de communication où en effet les marques américaines ont extrêmement buzzé
dessus. Dans le américain, mais
voilà, enfin dans le luxe anglo-saxon en tout cas. Ouais. Parce que si je prends Tom Ford par exemple sur l'américain, qu'on voit le see now, buy now aujourd'hui, il est vraiment réduit la voilure. Donc en effet, il y a cette bataille. Mais même si je reprends Burberry, c'est l'exemple très intéressant. On voit le revirement qu'a fait Burberry depuis peu, regardez ses communications, ainsi de suite, on redevient sur quelque chose qui est beaucoup moins fashion et beaucoup plus intemporel, beaucoup plus artistique. Donc c'est vrai qu'en ce moment, cette obsession de la qualité, d'un rapport au temps différent, est fondamentale. Et ce qui est très intéressant, c'est que véritablement, c'était un peu la folie du bouquin « Luxe et digital », où ouais, on dit à un moment donné, le luxe doit avoir une vocation sur le digital. Le luxe n'est pas du tout incompatible avec le digital, mais il doit essayer d'avoir une autre musique. Et aujourd'hui, moi je le sens en tout cas, que certes, il y a cette envie furieuse d'avoir tout de suite, mais peut-être que ce n'est pas forcément la place du luxe. Ou alors en tout cas, le luxe doit certes peut-être répondre à ça, mais doit trouver aussi un espace différent. Et l'espace de la qualité et le tout de suite est incompatible. C'est une notion d'éducation, c'est une notion de courage. C'est ce qu'on disait, le luxe doit un peu, apporter de l'humain dans le digital, et c'est complètement ça. Et aujourd'hui, on sent que beaucoup de marques de luxe commencent à dire, bah, finalement, mes contenus, mes expériences que je crée, c'est pas aller plus vite, mais c'est simplement respirer. Cette philosophie-là, humaniser un peu le digital, ça paraissait complètement fou, mais en tout cas, ça devient une réalité
alors
aujourd'hui.
Alors comment on explique que Chanel perd autant de parts de marché? En tout cas, ils sont dans des résultats qui sont plutôt négatifs. Comment on explique qu'une marque comme Chanel, qui est quand même une des marques emblématiques, je pense, avec Hermès, enfin voilà, c'est les deux grosses marques, je pense, enfin en tout cas, grand public et française, qu'on connaît bien. Comment on explique ça, en fait?
Ben, c'est vrai qu'il y a une contradiction, c'est difficile à expliquer. En termes de communication, ça ne s'explique pas. Parce que finalement, il suffit de regarder les plus grands sites d'analyse pour montrer que, par exemple, sur YouTube, Chanel a un savoir-faire pour faire de la vidéo sur Internet totalement unique. Mm-hmm. J'ai plus un questionnement aujourd'hui sur, entre guillemets, Lagerfeld. Ou sur le produit à proprement parler ici, est-ce que aujourd'hui n'est-il pas le temps d'un besoin de réinvention? La communication, le défilé sont extraordinaires. Est-ce qu'il y a une réflexion produit? Est-ce que la suite ne doit pas arriver?
Moi, j'avais la sensation que, pour moi, le luxe, c'est pas tant de vendre des produits, c'est de vendre du désir. Et j'avais la sensation que le désir au XXIe siècle ou le désir à l'ère digitale, il a vachement évolué. C'est plus forcément d'avoir le dernier sac, d'avoir le dernier tailleur, je sais pas quoi. Mais moi je tombe dans ce truc d'expérientiel, mais peut-être que c'est plutôt l'expérience que je vais avoir avec cette montre, l'expérience que je vais avoir avec ce sac. Peut-être que ce qui va m'intéresser, c'est d'avoir un sac vintage.
Et c'est pour ça que l'attente doit faire partie de l'expérience, entre guillemets. Parce que en fait, quand il n'y a plus d'attente, il n'y a plus de désir. Une femme qu'on désire, on l'attend. Un sac qu'on désire, on l'attend. Si c'est on claque des doigts, quelque part, le désir devient périssable. Et je suis d'accord. Et ça, c'est un énorme challenge par rapport à l'Asie, quand même, par rapport à les millénials. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le statut social passe plus par les expériences qu'on vit et qu'on transmet que par les objets. Et c'est pour ça que je pense, il n'y aura pas le choix, c'est que demain, les Vuitton, les Hermès, les Chanel vendront des expériences.
Bah, ce que fait Vuitton avec le voyage,
avec Close 19. Enfin, pour moi, Close 19, c'est vraiment le laboratoire d'LVMH sur un luxe expérientiel. Close 19, simplement pour en deux secondes, site à la base d'e-commerce sur tout ce qui est vin chez LVMH, mais on voit que finalement le cœur, c'est aller prendre, en effet, déguster un vin extraordinaire à l'autre bout du monde, et finalement Claudio s'occupe de tout pour vous faire la croisière et ainsi de suite. Donc on vend des moments extraordinaires. Donc c'est intéressant, c'est-à-dire qu'on sent en effet qu'on est sur un secteur qui est fascinant, qui réapprend, et je trouve qu'il a une énergie débordante, et il se remet vraiment en question. Et pourquoi ? Bah parce que il y a les aides, il y a les millennials, il y a le digital, et ça les obsède, et c'est tant mieux.
Et on va parler un petit peu des millennials après, mais t'as pas la sensation qu'il y a aussi cette histoire de club, les gens ont besoin de se regrouper, on voit bien qu'il y a du communautarisme dans tous les sens, alors on pourrait partir de l'islamisme jusque au catholicisme franc, on va dire.
Oui, non, mais c'est le rapport à la transcendance.
Ouais,
enfin, je veux dire, en fait, aujourd'hui, je pense, il y a une bataille qui se fait, c'est intensité contre la transcendance. Quand je suis dans le Sinobaina, je vends une intensité. Donc finalement, ma vie, elle est sexy. En fait, elle n'est faite que d'orgasme, quelque part.
Bien sûr.
Et ça, c'est tout de suite. Mais à un moment donné, il y a un épuisement qui se fait et il y a une vacuité qui arrive. La bataille de la transcendance aujourd'hui, en tout cas, tout un pan de la religion clairement disparaît. L'homme a besoin de cette transcendance. Et il peut la trouver dans un luxe qui n'est pas que, en effet, axé sur le matériel, mais sur l'immatériel. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je trouve que c'est intéressant, c'est qu'en effet, on rentre non pas dans un club privé anglais, mais on rentre plus dans une marque. C'est comme une salle d'exposition, en fait. Voilà ce que je compare. Vous voyez, c'est une exposition. En fait, une marque de luxe, c'est Beaubourg. Et il y a des objets, mais surtout, il y a une culture.
Il y a des gens aussi.
Il y a des gens, exactement. Enfin, il y a de l'humain, ça circule. Et finalement, tout ça, c'est de la transcendance. Et il ne faut pas l'oublier.
Et tu n'as pas la sensation qu'une marque de luxe, elle pourrait, par exemple, créer une sorte de club où les gens se rencontrent
Avec l'inclusivité.
Avec de l'inclusivité.
Mais c'est ça, en fait. C'est tout. Mais je pense que l'énorme challenge, c'est cette notion d'inclusivité. Alors, comme on est, au fait d'une culture anglo-saxonne, l'inclusivité vient du luxe anglo-saxon. Le luxe français n'est pas inclusif à la base. Il est clanique. On le voit, quand on voit quand même cette année, pour moi, le gros événement luxe, c'est Vuitton Suprême. Vuitton Suprême, c'est quoi ? On sent que véritablement il y a une tension, énorme désir du public, mais à un moment donné, on ferme la voilure parce que l'inclusivité, ça peut gêner. Donc, mais c'est extraordinaire. Il y a plein de sujets, la culture, l'inclusivité, la place du digital.
Et alors, justement, quand on parle digital, on pense évidemment digital native.